Certains seront contents, d'autres moins. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. L'équipe aussi qui a préparé vous souhaite la bienvenue. Je vois qu'il y a quand même pas mal de monde. J'avais un peu peur parce qu'il y en a qui font des ponts ou des viaducs, vu qu'il y avait de jeunes voies. Et je voulais dire que si vos places numérotées sont toujours les mêmes, c'est pas interdit de s'avancer un petit peu devant, il y a encore beaucoup de place. Alors ce matin, je vais vous raconter une petite histoire pour les jeunes, les enfants, je vois que c'est plutôt des grands-enfants, une histoire qui m'est arrivée quand j'étais jeune. Alors, à l'époque, déjà, je bricolais beaucoup et je faisais de la météorologie. Et j'avais développé un appareil avec un anémomètre et une girouette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais peut-être pas, je vais vous la raconter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un anémomètre? Voilà, c'est ça. C'est celui-là, c'était la deuxième génération. Et j'avais construit ça quand j'avais 14 ans, pendant que j'étais à l'école. Enfin, je l'avais fait à la maison, mais j'étais à l'école à cette époque-là. Et cet anémomètre, girouette, mon ami Nicolas me disait que c'était bien de présenter ça à un concours qui s'appelait « La science appelle les jeunes ». Et ce concours était organisé à Bâle. Et puis bon, finalement, je me suis dit « je vais le présenter ». Alors j'ai présenté ça. Et ça, c'est une photo qui date de vendredi, donc elle est récente, il existe toujours. Et puis la deuxième photo vous montrera l'autre partie de l'appareil. Voilà, ça c'est l'appareil qui lit en fait la vitesse du vent, la direction du vent, la température et qui compte les éclairs. Bon, cet appareil existe toujours et il marche toujours, avec pas mal d'années après. Et voilà, alors j'ai présenté cet appareil à un concours à Bâle. Alors bien sûr, je devais emballer le matériel et le faire livrer là-bas. J'ai dû aller à Bâle présenter. Alors jusque-là, tout allait bien. J'ai gagné un prix, un magnifique prix même. Et au retour, ben, j'espérais récupérer cette installation pour l'installer dans mon jardin, chez mes parents, qui me laissaient heureusement bricoler, aller sur le toit, installer des appareils. Alors le problème, c'est que voilà, l'appareil est revenu, mais pas tout. Ils avaient perdu en fait l'hélice qui était sur l'anémomètre, la petite hélice qui tourne avec les boules, les quatre boules, et ça avait disparu. Alors parallèlement, j'ai suivi l'école du dimanche, ensuite le catéchisme, et j'étais en train de découvrir la foi, et je me disais, c'est embêtant, c'est ennuyeux, Dieu permet ça, et je me posais bien des questions. Puis en même temps, j'avais une foi qui commençait à naître, je commençais à découvrir qui était Jésus, qui était Dieu. Puis je me suis dit, finalement, Dieu, il sait où il est, ce morceau, parce que j'y tenais mordicus, c'était quelque chose d'important pour moi. Je me suis dit, peut-être qu'il va le retrouver. Alors, j'ai prié, puis je me suis dit, Seigneur, tu sais où il est, peut-être que tu pourrais le retrouver. Et un jour, il y a un camion qui est venu devant l'école où j'étais pour redonner du matériel qui existait. Et je suis allé voir dans ce camion, il y avait un fouillis, mais pas possible, un camion plein de cartons. Et je regarde dans ces cartons et hop, je retrouve mon hélice avec les quatre pales. Alors j'étais tout content et je me suis dit, Dieu, il sait où sont les choses et il répond à nos prières, même des prières d'enfants. Et ça m'a réjoui et fortifié aussi dans ma foi. Donc il y a des choses extraordinaires qui se passent dans la vie, même des enfants, des jeunes et des adultes. Alors je vous invite à prier. Oui Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es ici et tu es aussi à la maison quand on est dans notre chambre, quand on est au travail, quand on est à l'école. Tu es partout, tu es là et nous pouvons te prier, nous pouvons t'écouter. Merci Seigneur de pouvoir passer un moment ensemble pour te remettre cette journée, te prier les uns pour les autres, te louer, te mettre au centre dans nos vies. Merci pour ta présence, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons passer à un moment de louange et je laisse l'équipe de louange animer ce moment.
Alors, bienvenue. On avait aussi un chant qu'on voulait faire avec les enfants et les grands-enfants. Elle est plus ancienne. Alors, c'est un chant qui dit « Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel Père... Voyez de quel est l'amour le Père nous tous aimés. Pourtant, il est répétitif, alors c'est un peu là. Il nous a appelés ses enfants, il nous a appelés ses enfants. Pourquoi j'ai choisi ce chant? C'est que je le chantais avec mes grands-parents, avec mes parents. Et c'est un chant assez ancien, donc j'espère que les plus anciens le connaissent pour apprendre aux plus jeunes. Et voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Ben, c'est simplement en voyant la nature, en voyant de tout ce qu'il fait autour de nous. Et je trouve ça super qu'aussi il nous appelle ses enfants. On a le privilège de pouvoir avoir un papa d'amour qui nous appelle ses enfants. Alors, c'est un chant qui va être en canon. Donc, il y aura la moitié, la rangée du milieu. Vous choisissez quelle rangée vous voulez être, à gauche ou à droite. Je pense du côté de Roger, ce sera plutôt à gauche. Hein. On va déjà le faire une fois en entier pour que vous puissiez l'avoir en tête. On s'arrêtera et puis on va partir en canon. Donc, la rangée de gauche, ce sera moi. Et puis Mathieu, il fera l'autre côté. Alors, je vous invite à vous lever. Alors, je vais commencer avec la rangée de gauche et après, Mathieu, tu suivras. Donc, vous suivez bien, Mathieu. Alors, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés.
Voyez de quel amour.
C'est dans cette optique de louange et puis ne pas oublier qu'on a un Dieu de victoire qui habite en nous et puis qui nous fait marcher par la voie et non pas la vue comme le reste de la populace.
Par la foi, le Dieu de victoire habite en moi.
marche, non pas la vue, n'est pas la fin, le Dieu de victoire habite en moi.
Sans ta lumière, Seigneur, où
écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous. Je crois que tu es le Fils de Dieu. J'apprends ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir.
Tout puissant pour nous.
Voilà, nous allons lire deux textes qui serviront de base à la prédication. On laisse les enfants sortir. Alors le texte se situe dans la Genèse au chapitre 21, les versets 1 à 13. C'est l'histoire de la naissance d'Isaac. On va en parler toute la matinée. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah en faisant pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte alors qu'Abraham était déjà un vieillard et elle mit au monde un fils à l'époque que Dieu avait annoncé. Abraham nomma Isaac ce fils que Sarah lui avait donné. Il le circoncit à l'âge de 8 jours comme Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Sarah déclara, « Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui entendront parler d'Isaac riront avec moi. » Et il ajouta, « Qui aurait pu dire à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants ? Pourtant je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit. Quand Sarah cessa de l'allaiter, Abraham fit un grand banquet. Un jour, Ismaël, l'enfant que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, était en train de jouer. Sarah le vit et dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils. Celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » Ces paroles firent beaucoup de peine à Abraham, parce que Ismaël était aussi son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas contrarié au sujet de ton esclave et de son enfant. » Accepte de faire tout ce que Sarah t'a dit. En effet, c'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. Quant au fils de ton esclave, je ferai aussi naître de lui une nation, car il est ton fils. Et un autre texte qui est dans Galates, les versets chapitre 3, 26 à 29. Car c'est par la foi que vous êtes fils de Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Vous tous, en effet, avez été baptisés pour être unis au Christ et vous êtes revêtus de la condition nouvelle qui est dans le Christ. Il n'y a donc pas de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Vous êtes tous un dans l'union avec Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham et vous recevrez les biens que Dieu a promis. Je passe la parole à Benjamin qui assurera la prédication.
Le texte qui a été lu nous dit que Dieu a accompli ses promesses. Et ce qui est génial, c'est qu'il continue à accomplir ses promesses aujourd'hui. Cette conviction que Dieu accomplit ses promesses est une source d'assurance pour les chrétiens, qui nous procure la paix et qui nous permet d'envisager l'avenir, proche ou lointain, avec assurance. Je trouve génial que Dieu se serve de cette histoire pour nous parler aujourd'hui. Car c'est une histoire qui est agréable à lire et qui parle d'un homme comme vous et moi, qui a eu des hauts et des bas dans sa vie. On peut diviser le texte de la Genèse qui a été lu en deux parties. La première parle de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et la deuxième partie nous montre que toute tentative pour remplacer Dieu dans l'accomplissement de ses promesses est inutile. Finalement, après avoir regardé ce texte, nous verrons comment Jésus est l'accomplissement ultime des promesses qui ont été faites à Abraham. Ce chapitre commence par « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit ». Dieu a dit quelque chose et il va l'accomplir. Pour comprendre ce qu'il a accompli, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Abraham. Tout commence lorsqu'Abraham est appelé par Dieu. Abraham est un homme qui a vécu beaucoup de choses. Il a déjà 75 ans. Dieu se manifeste à lui, Abraham, et il lui fait une promesse. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi, seront bénies en toi. » Abraham quitte donc son pays avec sa femme, ses serviteurs, ses troupeaux. Malheureusement, il n'a pas d'enfant. Mais un jeune l'accompagne, Lot, son neveu. Il marche, encore, il marche. Il parcourt plus de 1500 kilomètres à pied. Et le voilà arrivé en Canaan, terre que Dieu lui a promise. Il s'y installe en tant que berger nomade. Mais un conflit naît avec Lot. Il n'y a pas assez de place pour leurs troupeaux et leurs bergers se disputent. Ils décident donc de se séparer, d'aller chacun de leur côté. Cette séparation devait être douloureuse pour Abraham. C'est un parent proche et en plus, c'est son héritier le plus direct. Après cette séparation, Dieu se révèle à lui et réitère sa promesse avec une précision. Cette grande nation que tu vas devenir, elle viendra de ta postérité. Le temps passe et Abraham n'a toujours pas d'enfant. Dieu réitère sa promesse. Abraham lui fait confiance, mais il n'a toujours pas d'enfant. Sarah, sa femme, lui propose d'aller coucher avec Agar, sa servante, pour avoir un fils. Alors au 21e siècle, cette pratique nous semble très étrange. Mais à l'époque d'Abraham, dans la région du monde où il habitait, il y avait un empire qui avait une loi qui disait que si un couple ne pouvait pas avoir d'enfant, alors l'homme pouvait prendre une servante pour avoir un enfant avec et que cet enfant deviendrait l'enfant légitime du couple. En d'autres termes, il deviendrait l'héritier du couple. En d'autres termes, en termes modernes, on pourrait dire qu'Agar devait servir en quelque sorte de mère porteuse. Toutefois, cet enfant perdait ses droits si jamais le couple arrivait par la suite à avoir un enfant naturellement. Abraham a 85 ans, il a 85 ans, et la chance qu'il puisse avoir des enfants devenait de plus en plus maigre. S'il ne voulait pas mourir sans enfant, il devait trouver une solution. Donc Abraham couche avec Agar, et ainsi naquit Ismaël. 13 ans plus tard, Dieu confirme encore une fois son alliance avec Abraham. « Tu seras le père d'une nation nombreuse » et précise « par le fils que tu auras avec Sarah ». Dieu est puissant, Abraham le sait, mais comment un vieillard, bientôt centenaire, pourrait-il avoir des enfants avec une dame de 90 ans ? À cette promesse, il rit et suggère qu'Ismaël soit ce fils de la promesse. Mais Dieu confirme, dans une année, ils auront un fils, qu'Abraham devra appeler Isaac. Quelque temps plus tard, c'est au tour de Sarah d'entendre la promesse de Dieu. Quelle est sa réaction ? Elle rit. Et c'est après cette longue histoire de 25 ans que débute notre récit. C'est à ces promesses que notre texte fait référence. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et il accomplit ce qu'il lui avait promis. Ils ont un fils qu'ils appellent Isaac. Et, âgé de 8 jours, Abraham le circoncit selon la circoncision qui est le signe de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le signe de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Dieu a donné un fils à Abraham et Sarah comme il l'avait promis. Cette histoire montre la fidélité de Dieu. Mais il y a une chose qu'on peut facilement oublier. Dieu gère son temps d'une autre manière que nous. Alors qu'Abraham a 100 ans, que tout espoir est perdu, il a un fils. Dieu accomplit ses promesses. Et je pense que dans nos vies, ça arrive aussi qu'on soit pressé de voir les promesses de Dieu s'accomplir et qu'on doive attendre. Alors pour ma part, je n'ai pas encore attendu 25 ans pour voir une promesse que Dieu avait faite s'accomplir, puisque je ne me souviens pas de ce que je demandais à Dieu, de ce qu'il m'avait promis quand j'avais une année. Mais c'est pour vous dire qu'il a attendu aussi longtemps que la durée de ma vie, Abraham, pour avoir son fils. Faire confiance à Dieu, malgré l'épreuve du temps, ce n'est pas facile. Et ça n'a pas été facile pour Abraham non plus. Dieu a fait une promesse à Abraham, et Abraham répond à cette promesse. Il y a évidemment un acte de foi, et pas n'importe lequel. Il quitte son pays avec tout ce qu'il a, et il parcourt 1500 km à pied pour aller là où Dieu lui a demandé d'aller. En Genèse 15, verset 6, on lit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Abraham fait confiance à Dieu, et Dieu le déclare juste au travers de cette confiance qu'il a. Mais d'un autre côté, à côté de cette foi, on voit aussi le doute s'installer. Et c'est compréhensible. Il part de son pays à 75 ans. Et à 86 ans, il n'a toujours pas d'enfant. Il se dit que peut-être il a mal compris quelque chose. Qu'il doit aider Dieu à réaliser sa promesse. Et peut-être se dit-il que ce qu'il fait n'est pas si mauvais puisque cela se fait ailleurs et que c'est légal. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, mais on peut voir le résultat de ses actions. Il apporte une réponse instinctive aux promesses de Dieu qui conduisent à la naissance d'Ismaël. Et la naissance d'Ismaël conduira à des événements catastrophiques. La suite de notre texte le montre. Sarah vit rire le fils d'Agar, le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplaît beaucoup à Abraham, qui aime Ismaël, son fils. Mais Dieu confirme à Abraham qu'il doit faire ce que Sarah lui demande. Il dit, chasse donc Agar et Ismaël, et n'aie pas peur. Il y aura quand même une grande nation qui sortira d'Ismaël. Abraham se lève de bon matin, il va chercher Agar et Ismaël, il leur donne de quoi subsister pendant quelque temps, de l'eau, du pain, et il les renvoie de chez lui. La réponse instinctive d'Abraham conduit à la naissance d'Ismaël. Et ce qu'Abraham n'avait pas compris, c'est que la solution prise indépendamment de Dieu et la solution spirituelle ne peuvent pas se côtoyer. Autrement dit, le fils de la promesse et le fils de la femme libre ne peuvent pas coexister. Le verbe rire dans ce passage, qui est aussi traduit parfois par jouer, comme dans la version que Daniel a lue au début, peut avoir une connotation négative. Ce verbe peut signifier se moquer d'eux. On pourrait dire qu'Ismaël se rit de Jacob. C'est pour cela que Sarah réagit si fortement. Ismaël, en se moquant d'Isaac, se moquait peut-être de la promesse. Et s'il se moquait de la promesse, il se moquait de celui qui avait fait la promesse, Dieu. Ce qu'a fait Abraham arrive à chaque fois qu'on veut s'en sortir par nous-mêmes, par nos propres moyens. Prenons une illustration suggérée par le texte, l'éthique familiale. Le projet de Dieu pour la famille, c'est qu'un homme et une femme se rencontrent, qu'ils se marient, qu'ils aient des rapports sexuels et des enfants, dans cet ordre-là. Et évidemment, les époux se doivent fidélité mutuelle. Pour les chrétiens, le mariage doit également se faire avec un autre chrétien. Pour beaucoup d'entre nous, en pensant à la famille, différentes choses se mêlent. De la joie, des déceptions, des tristesses, la recherche du bonheur. Dieu a fait une promesse. Dans la durée, le bonheur familial se trouve dans le couple fidèle, aimant, qui se pardonne réciproquement. Mais nous l'avons vécu différemment. Le résultat, de la tristesse, de la rancune, de la haine, toutes ces choses dont nous ne voulions pas. J'ai pris l'exemple de l'éthique familiale, mais les applications pourraient foisonner. Le problème survient à chaque fois que l'on veut faire quelque chose pour s'approcher de Dieu par nous-mêmes. À chaque fois que l'on veut combler un besoin, aussi légitime soit-il, par nous-mêmes. À chaque fois que l'on veut faire quelque chose qui force, d'une certaine manière, la main de Dieu. Et je crois qu'il y a trois choses qui nous poussent à faire cela. Il y a la méconnaissance ou l'incompréhension de ce que Dieu nous demande. Nous péchons par ignorance. Il y a le laxisme ou la faiblesse. Nous savons ce que nous devons faire, mais c'est trop fatigant, c'est trop difficile. Nous n'y arrivons pas. Il y a le légalisme. Pour être juste devant Dieu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et même si les règles peuvent être bonnes, comme la loi de Moïse, elles ne font que nous renvoyer à notre propre faiblesse, puisque nous n'arrivons pas à les mettre en pratique de manière scrupuleuse. Une objection que vous avez peut-être, c'est « Ok, Abraham s'est trompé, mais Agar et Ismaël n'y sont pour rien. Pourquoi les chasser ? » On ne sait pas grand-chose d'Agar. Par contre, Ismaël s'est moqué d'Isaac, donc il y est pour quelque chose. Et cette lecture qu'Ismaël s'est moqué d'Isaac est encore renforcée dans l'Épître aux Galates, où on peut lire que vraiment Ismaël s'est moqué d'Isaac, il n'y a pas de doute. Et l'autre chose, c'est que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Toutes les nations seront bénies par son fils, et non pas par ses fils. Autrement dit, pour être au bénéfice des bénédictions faites à Abraham, il faut être fils de la promesse. Et je vais relire les versets qui ont été lus en Galates 3. Et je vais en lire deux autres qui sont juste avant, les versets 16 et 22. Donc je lis en Galates 3, versets 16, 22, 26 et suivants. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier dans la promesse. Le texte de Galates ne laisse aucun doute. L'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham se trouve en Christ. Christ est la descendance promise. Lui, entièrement Dieu, pleinement humain, il a résisté à la faiblesse humaine, il a compris parfaitement la mission que son Père lui avait confiée, et il a accompli la loi. Là où tous nous chutons jour après jour, il y est arrivé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne l'a pas fait pour nous dire « Vous avez vu ? C'est possible, moi j'y suis arrivé. » Non. Il est venu pour que nous puissions nous revêtir de lui comme d'un manteau, pour que nous puissions être bénéficiaires des promesses, pour nous inviter au pays promis où coule le lait et le miel, où il n'y a plus de larmes, où le cœur des pères et des enfants sont réconciliés. C'est là où nous sommes appelés à être citoyens, la Jérusalem céleste. C'est pour cela qu'il importait que Abraham chasse Ismaël, parce qu'il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé, d'être citoyen de la Jérusalem céleste. C'est de croire en Jésus, la solution de Dieu. Toutes les autres solutions sont vouées à l'échec. Tout est accompli, mais tout n'a pas encore été pleinement manifesté. Nous sommes déjà citoyens de la Jérusalem céleste, mais nous serons entièrement transformés lorsque Jésus viendra nous rejoindre, ou lorsque nous le rejoindrons. Ce temps d'attente, qui est parfois difficile, est une grâce de la part de Dieu. Il laisse du temps à l'humanité pour se repentir et pour accepter son pardon. Reprenons l'histoire d'Abraham. Non seulement il doit attendre des décennies avant de voir s'accomplir la promesse, et en plus de cela, l'accomplissement est partiel. Il meurt en terre étrangère avec un seul fils légitime. Où sont les millions d'étoiles? Où sont ses descendants plus nombreux que le sable? Qu'en est-il du pays promis? Qu'en est-il d'être une bénédiction pour toutes les nations? Et aujourd'hui, on peut se dire, ok, en Jésus, les promesses sont accomplies, et nous sommes devenus citoyens de la Jérusalem céleste. Mais si tout est accompli, pourquoi la maladie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les disputes de famille? Notre situation est semblable à celle d'Abraham, puisque nous sommes dans l'attente de la pleine manifestation des promesses. Nous attendons avec impatience le retour de Jésus-Christ, qui sera l'aboutissement final des promesses. Nous attendons avec impatience d'être auprès de lui. Mais notre situation est aussi différente de celle d'Abraham, parce que les promesses ont été accomplies en Jésus, que nous sommes déjà en lui et que nous avons déjà part à ses promesses. Mais heureusement, dans ce temps d'attente, de marche vers la perfection, Dieu prend en compte notre humanité, nos faiblesses, nos besoins, même lorsque nous nous trompons. Je l'ai dit, Abraham a dû à contre-cœur chasser Agar et Ismaël parce que Dieu voulait montrer quelque chose à l'humanité à travers de sa vie. Après que Abraham ait chassé Agar et Ismaël, ils partent dans le désert et s'égarent. Les réserves d'eau et de nourriture s'épuisent et Agar est désespérée. Elle laisse son fils un peu plus loin et elle va s'asseoir, désespérée, résignée à mourir. Mais Dieu lui parle, lui ouvre les yeux. Il y a un point d'eau non loin de là, où ils pourront reprendre des forces. Dieu est venu à son secours. Et encore aujourd'hui, il vient à notre aide. Quand nous marchons en conformité à sa volonté, il vient à notre aide, mais aussi quand nous nous trompons et que nous nous égarons. Non seulement il nous aide, nous, mais il prend soin aussi du résultat de nos erreurs, quels qu'ils soient. Nous sommes humains et Dieu nous aime comme un père aime ses enfants. Alors, gardons les yeux fixés sur Christ, confiant qu'en lui, Dieu a accompli ses promesses. Revêtons-nous de lui comme d'un manteau qui nous rend saints et irréprochables. Restons dans la ferme attente que Christ vient nous chercher. Osons la confiance. Dieu est un Père bienveillant qui prend soin de nous. Soyons sereins, car ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Ce matin, j'ai beaucoup parlé du texte biblique et je n'ai pas donné beaucoup d'illustrations et d'applications. J'aurais pu donner un témoignage, ou même plusieurs, parce que Dieu a été fidèle dans ma vie et à plusieurs reprises, il a accompli de manière miraculeuse les promesses qu'il avait faites. Mais le risque, si je fais ça, c'est que vous reteniez mon témoignage et que vous oubliez le reste, que vous oubliez le texte biblique. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir dans votre vie, quand est-ce que Dieu a été fidèle et il a accompli ses promesses? Et vous verrez, il y a de nombreuses fois où il l'a fait. Et c'est aussi une manière, en pensant à ça, en pensant que Dieu a accompli ses promesses, de s'approprier le texte. Posez la question autour de vous et vous entendrez que Dieu est fidèle et puissant. Il y a une question que j'aime bien poser aux gens, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont chrétiens? Et à chaque fois que je pose cette question, c'est incroyable. Dieu est puissant, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Ben, je vous invite à poser une autre question. Posez à quelqu'un, comment avez-vous expérimenté la fidélité de Dieu?
Nous allons entrer dans un moment de partage du pain et du vin, un moment de Sainte-Cène. Je dirai quelques mots. En prenant le pain et le vin, nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous racheter et nous réconcilier avec Dieu. Et dans Éphésiens, dans le chapitre 2, quelques extraits des versets 11 à 13, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause d'un grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà, c'est quelques extraits du texte. En Jésus-Christ, on était éloignés et maintenant on est rapprochés par le sang de Christ. À la scène, nous nous souvenons de ces fêtes, ce que Jésus a fait pour nous, pour chacun d'entre nous, et nous avons pu l'expérimenter, cette présence, cette miséricorde de Dieu. Chaque chrétien peut témoigner de comment il est ou il est devenu enfant de Dieu. La Sainte Cène nous rappelle également que cela a coûté à Jésus-Christ. Il a payé de sa vie pour nous sortir de cette histoire, de nous sauver. Quand nous mangeons le pain et buvons le vin, les symboles de la mort de Jésus, nous nous identifions avec Christ. Nous proclamons « J'appartiens à Jésus, j'accepte sa mort à ma place, j'accepte qu'il m'aime, j'accepte son salut ». Nous proclamons « J'affirme ma foi en Jésus-Christ, j'ai besoin de lui ». Voilà, nous allons lire l'institution.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. »
Nous prierons. Oui, Seigneur, merci de pouvoir participer à ta vie, d'être inclus, d'être associé à ton amour, à ta vie. Merci de ce que tu t'es sacrifié pour nous, pour que nous puissions vivre, et que par ce vin, ce partage du vin et du pain, nous puissions vraiment te louer, te remercier, te dire toute notre affection, tout notre amour pour toi. Amen. J'aurais besoin de deux personnes pour nous donner un coup de main, s'il vous plaît. Merci, c'est gentil. Et pendant ce moment de partage de la scène, nous vous invitons aussi à prier à haute voix, de manière courte, que chacun puisse prier. Je rappelle qu'au niveau des petits gobelets, au centre se trouve du vin sans alcool et vous pouvez vous servir. Et ceux qui désirent la coupe lèveront la main, on la ramènera.
Seigneur, nous te remercions de ta venue, nous te remercions d'avoir porté nos péchés et de faire avec nous, avec notre humanité, nos faiblesses, nos difficultés. Nous te remercions de venir nous relever jour après jour et de nous couvrir. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes. Amen.
Alors, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter pendant l'offrande le 427 « Je n'ai que toi ». Asseoir. Et nous prierons. Seigneur, nous voulons te confier cette somme qui a été récoltée, qu'elle puisse à nouveau participer à l'avancement de ton règne. Nous voulons te prier pour tous les envoyés de notre Église dans différents pays. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont partis de la Fédération des églises évangéliques, la FRE. Te prions pour tous ceux qui travaillent pour toi et que vraiment ils puissent être bénis dans leur mission, dans leur travail, dans leur engagement. Seigneur, nous pensons aussi à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin pour cause de maladie, pour cause de soucis. Te demandons de bénir chacun, que nous puissions rester en communion les uns avec les autres, avoir du souci pour les uns et pour les autres. Nous te confions tout cela sous ton regard, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on va passer aux annonces.
Voilà, donc la répétition de la chorale, pour la dernière fois, ce sera ici, ensuite ce serait Forum Marin, mais ce jeudi, c'est encore ici. Vendredi, le moment attendu, le cathé reprend. Samedi, nous proposons un temps de prière. Il y a la chorale qui va chanter pour les 20 ans de Forum Marin. Et c'est une possibilité d'être présent dans la cité. Et nous désirons nous retrouver ici entre 9h30 et 11h30 pour prier en vue de ce temps, cette rencontre au Forum. Ce serait aussi l'occasion de prier pour d'autres événements dans notre monde et de la vie de notre communauté. Donc samedi qui vient, un temps exceptionnel de prière ici dans la salle en haut. dimanche prochain, nous avons des invités. C'est une équipe qui nous vient de la Mongolie. C'est un travail qui est soutenu par la FRAE et il y a eu un envoyé qui sera présente avec nous et ce serait aussi l'occasion de découvrir cette œuvre et ce ministère. Donc dimanche prochain à notre culte où il y aura aussi l'envoi de deux de nos jeunes qui partent en Canada avec Jem. Samedi 26, il y a plein de choses qui se passent. La mission Portes Ouvertes fête ses 60 ans à Yverdon. Et il y aura quelqu'un du Corée du Nord qui sera présent pour dire comment les chrétiens vivent si difficilement là-bas. Aussi, un rapport sur la situation des chrétiens au Pakistan. Donc, fortement recommandé. Et puis, vous pouvez revenir à temps pour être ici à Merin, c'est le cliché suivant, pour 19h, où nous chanterons à Forum Merin. Et il y a la chorale qui se prépare, mais on compte sur votre présence, parce que le but, c'est de faire chanter tout le monde ensemble. Donc, 19h, Forum Merin. Le samedi 26 septembre, nous sommes tous attendus. Voilà, et puis j'ai encore deux, trois choses. Je vais monter là-haut. D'abord, j'invite Aurélie de venir.
Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, on m'entend ? Alors, en fait, je viens juste faire une annonce par rapport au camp de ski du groupe de jeunes. On a trouvé une cuisinière qui est la maman d'un responsable de l'église de la colline et elle a déjà l'habitude de faire de la cuisine pour des camps. Elle a déjà préparé tous les menus et fait la plupart des achats. Mais elle aurait besoin de deux aides cuisiniers. Donc, s'il y a deux personnes qui auraient juste envie de venir au camp et de, voilà, d'aider à la cuisine, c'est volontiers. Vous pouvez venir vers les responsables pour nous dire. Et puis, si vous avez des gens que vous connaissez autour de vous, ben leur proposer aussi et puis nous en informer. C'est du 26 décembre au 2 janvier.
Merci. Voilà, tu n'as pas donné un délai, mais j'imagine aussitôt que possible. Merci. Je rappelle que nos messages sont enregistrés sur le site. Benjamin a aussi imprimé des exemplaires qui sont à disposition si vous voulez prendre avec vous et regarder à nouveau le message que nous avons entendu ce matin. Cet après-midi, nous sommes tous invités, mais pas tous au même moment, à partir de 14h30 jusqu'à 20h du soir, chez Benjamin et Zichuan, où aura lieu la pendaison de la crémaillère. Voilà, on va découvrir ça et on est tous invités pour un moment de convivialité, 55 rue de Vaudagne, juste vers le terminus du tram. Et puis, donc, dernière annonce, nous avons reçu un joli faire-part qui annonce l'arrivée d'Aloïs Noé Félix, petit garçon qui est né dans la famille de Florian et Marielle. Je vais l'afficher pour tous les détails utiles, mais on peut se réjouir pour cette arrivée d'un bébé encore en bonne forme. Voilà, c'est les annonces.
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, allons confiants que Jésus-Christ nous revêt et qu'on peut marcher dans sa paix et dans sa grâce.